lecture assez nourrie. Et puis j'ai compris tout de suite que le président Sankara ne pouvait pas survivre dans ce déluge de feu.
Et lui, il n'avait rien remarqué de suspect à...
Non, bien sûr, je pense qu'il le savait. De toute façon, quand on faisait les réunions, il disait « si l'on veut le tuer, personne ne peut empêcher le président, enfin, celui qui est devenu le président, c'est-à-dire le capitaine Compaoré, s'il le veut, de le tuer parce qu'il estimait qu'il était, il avait tous les moyens pour le faire. Bon, mais lui ne croyait pas à cela parce que il misait énormément sur l'amitié très profonde qui les liait, parce qu'ils étaient même plus que des amis, étaient devenus des frères d'une même famille. Donc, ils refusaient de croire qu'une action de ce genre viendrait de la part du capitaine Blaise Compaoré.
Oui, justement, il avait eu écho de tous ses préparatifs et il savait exactement que c'était Blaise qui était derrière, mais qui le considérait comme un frère d'armes et qui refusait d'y croire. Est-ce qu'on peut parler, on peut dire que Sankara, il avait un côté naïf?
Moi, je pense qu'il avait, il surestimait l'amitié et il surestimait l'être humain. Il idéalisait un certain nombre de valeurs humaines. Vous savez, l'utopie commence dès lors que vous considérez que vous pouvez faire de grandes choses avec la personne humaine. C'est-à-dire qu'il refusait de croire qu'un être humain puisse avoir un côté méchant, il ne voyait qu'un côté bon de l'être humain, un côté vraiment positif et le côté négatif, il ne peut pas imaginer qu'un bien pensant puisse composer avec un côté négatif. Et c'est cette vision idéaliste de la société et de l'être humain et qui a contribué, je crois, à sa perte.
Restez en ligne, Monsieur Balima. Nous recevons Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Bonsoir, Bagassi.
Oui, bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Oui, Bagassi, vous avez suivi cette commémoration en mémoire du président Thomas Sankara, 28 ans après son assassinat. Personnellement, qu'est-ce que vous avez vu de particulier? Que faut-il partager avec nos auditeurs africains et...
Oui. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est un grand plaisir d'être sur le même plateau que le professeur Balima, qui est un grand professeur qui m'a enseigné à l'université, à l'école de journalisme. Ce soir, j'étais donc à Tampouy, parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara n'a pas eu lieu à Dagno, le cimetière où il a été, ses restes ont été enterrés et déterrés il y a quelques mois. Et donc, les gens ont décidé, donc, comme ces restes ont été déterrés de Dagno, ce n'était pas forcément nécessaire de se retrouver là-bas. Donc, ils se sont retrouvés à ce qu'ils appellent place des martyrs à Tampouy. Il y avait quelques milliers de personnes. Et comme toujours, c'est des jeunes qui étaient les plus nombreux et toujours le même message. Il y avait plusieurs ministres de Thomas Sankara qui sont venus partager leurs souvenirs de l'homme, leurs connaissances de l'homme et leur expérience durant la révolution burkinabé. Il y avait surtout celui qu'on appelle l'homme le plus chanceux, celui qui est le seul rescapé des personnes qui ont été tuées ce soir-là du 15 octobre 1987, Aluna Traoré, parce qu'il a pu sortir des cadavres vivants sans être touché par une seule balle. Et donc il a partagé cette expérience assez émouvante avec le public qui est assez jeune. Ce qu'il faut dire concernant Thomas Sankara, c'est que ces gens qui n'étaient même pas nés quand il était au pouvoir sont aujourd'hui ses plus grands défenseurs, parce que ce qui reste de Sankara, ce qui est le plus fort, ce sont ses idées, ce sont ses projets. Et l'Afrique, si l'Afrique doit avancer, on devra forcément retourner à certaines de ces idées-là que Sankara avait mis au devant.
Est-ce que le gouvernement de transition s'est impliqué dans cette commémoration?
moi, je n'ai pas connaissance d'une implication ou d'une cérémonie officielle. Je n'ai pas vu le ministre là-bas. Bien sûr, il y avait de nombreuses personnalités qui, plus ou moins, ont des relations avec les hautes sphères de l'État. Mais l'État, en tant que tel, organisait une cérémonie officielle parce que ce n'était pas une journée. C'est une journée fériée ici et hein, une journée chômée fériée à Ouagadougou. Ce n'est pas une fête nationale non plus. Et je n'ai pas vu un communiqué passer. Peut-être que ça a dû exister, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu un truc de ce genre. Mais c'est surtout laissé aux organisations, aux partis politiques qui réclament de l'idéal de Thomas Sankara de s'organiser, voilà, de faire la promotion. Il y avait des posters notamment, des livres dédié à Thomas Sankara, des livres qui partagent ses projets de développement, sa vision du monde. Et donc, ce genre de choses-là, et des gens venaient partager leur expérience à part l'impérialisme, comment est-ce que l'Afrique devrait compter sur elle-même pour avancer. Ce sont ce genre d'idées qui étaient avancées. Je n'ai pas vu de membres officiels du gouvernement là-bas.
Est-ce que le jour férié était un hasard ou... On l'a décrété comme ça, sans toutefois donner la raison, pour permettre peut-être...
Non, c'était pas un jour férié, c'est ce que je tentais de dire. Aujourd'hui, c'était pas du tout un jour férié, c'était pas un jour chômé. Tout a tourné normalement ici. Le gouvernement n'a pas... Tout ce qui dont j'ai entendu parler, qui peut ressembler à une décision du gouvernement, c'est concernant l'assassinat de gendarmes à l'extrême ouest du pays. Je crois que il doit y avoir un deuil national qui commence demain, mais concernant Thomas Sankara, il n'y a pas eu de communiqué à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu un communiqué, je n'ai pas vu une annonce ou une participation du gouvernement à une cérémonie concernant la commémoration du 28e anniversaire de Thomas Sankara. Ce qu'il faut noter, c'est que demain, à 10h, pour la première fois, le nouveau directeur du tribunal militaire, le colonel Sika Sangaré, tient sa première conférence de presse et il va parler notamment du coup d'État, de l'affaire du coup d'État, mais aussi du dossier Thomas Sankara. Vous savez que la semaine dernière, on a remis à la justice militaire et aux avocats aussi de la famille les résultats des expertises sur les restes de supposés de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons.
Merci à Bagassi pour toutes ces précisions. Je rappelle que VOA Afrique va mettre en ligne ce soir l'intégralité exclusive d'une interview que le capitaine Thomas Sankara avait accordée à Idrissa Seydou Dia. C'était en 1984 plutôt. Et le contenu de...
Eric.
Oui, Bagassi.
Alors, je voulais aussi ajouter, hein, en plus de cette interview exclusive que Idrissa Seydou Dia a réalisée à l'époque hein, avec le président Thomas Sankara, il faut ajouter cette interview de Yamba Malik Savadogo, qui lui fait partie de cette vingtaine de prisonniers à l'époque qui avaient été amenés au cimetière pour enterrer Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune. Et donc, un témoignage assez émouvant. Hein. Il parle d'enterrement sans porter de gants, de mains ensanglantées. Et il parle des conditions, comment ça s'est passé cette nuit-là. Et voilà, des langues qui se délient en ce moment, alors que le dossier judiciaire avance. C'est un moment important dans l'histoire de ce pays.
Merci Bagassi. Professeur Balima, quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara? Professeur Balima, je m'excuse. Professeur Balima.
Oui.
Oui.
Je vous écoute, oui.
Oui, quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara?
Ben, c'est vraiment l'idée d'un homme qui avait une haute idée de sa mission et qui vraiment entendait conserver son intégrité morale dans la conduite des affaires de l'État. C'est un homme aussi qui aimait beaucoup le peuple burkinabé et il croyait énormément en la grandeur de ce peuple-là qu'il mettait au-dessus de tout. Il n'était pas attiré par les questions matérielles et financières. Vraiment, pour lui, sa mission était un sacré boss.
Il y en a qui disent que sa révolution a fait quand même des victimes, que il faut aussi voir, disons, son côté qui n'est pas tout à fait, disons, correct.
Oui. Oui, ça c'est vrai qu'il faut reconnaître que aussi durant son régime, il y a eu un certain nombre de dérives, dû simplement au fait que beaucoup de gens ont adhéré au processus qui sans vraiment une conviction suffisante, hein, je dis bien certains, qui ont trouvé le moyen, le fait que le pouvoir populaire leur a permis d'exercer une certaine responsabilité au sein de la société. Évidemment, ils ont pensé que, bon, évidemment, ils pouvaient profiter de ces positions-là pour entreprendre des actions et voir des exactions. Et ça, c'est vrai. Et cela a contribué aussi, je crois, à dénaturer un peu l'idéal de l'admission de Thomas Sankara.
Professeur Mbalima, Sankara, c'est lui qui a changé le nom de la Haute-Volta pour devenir plus tard le pays des hommes intègres. Voudriez-vous nous dire dans quelles circonstances il a imaginé à changer la dénomination du pays et comment le pays devient le pays des hommes intègres, disons le Burkina Faso? Car je l'ai suivi dans une interview qu'il avait accordée à un journaliste français qui définissait le Burkina Faso, je mets entre guillemets, la patrie des hommes honnêtes.
Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a accédé au pouvoir, son souci c'était d'abord de changer le nom du Burkina, qui portait le nom du pays du moins, qui s'appelait Haute-Volta. Et pour lui, ça n'avait aucune signification historique. D'abord, c'était une résurgence coloniale qu'il ne pouvait pas apprécier. Et il a estimé que cette terre de nos ancêtres méritait bien mieux. Et dès lors, il a commencé à réfléchir et il a utilisé, en fait, la culture locale, les langues locales en même temps, pour imaginer le nom de ce pays qu'il a effectivement débaptisé et appelé maintenant Burkina Faso. Burkina, c'est en langue morée qui signifie intégrité morale, et Faso signifie patrie dans une autre grande langue du Burkina Faso qui signifie la patrie. Donc en fait, c'est la patrie des hommes intègres ou la patrie de l'intégrité, si vous voulez, intégrité morale du peuple. Bon, il en était fier. Comme je vous dis, il avait une très haute idée de son peuple et il a estimé que ça correspondait bien avec les vertus de son peuple. Et c'est comme ça qu'il a vraiment baptisé le Burkina Faso. À l'époque, il fallait le faire. Et il avait dit quelque temps après que le nom du Burkina Faso a fait déjà le tour du monde, plus de 360 fois le tour du monde. Et il en était fier. Et je crois que l'histoire lui donne parfaitement raison de nous appeler ainsi, parce qu'en réalité, notre tradition, nos mœurs habituelles, s'inspire beaucoup de l'intégrité et du patriotisme.
Et c'est lui-même qui a trouvé le nom Burkina Faso. Il a dit qu'il a puisé terroir.
Oui, il a puisé dans le terroir. Et pour aller plus loin, par exemple, l'hymne national, il l'a débaptisé pour l'appeler d'Italie, ce qui correspond encore à une autre appellation dans une autre langue du terroir burkinabé. Et le décret, il avait changé le mot décret en utilisant la langue nationale. Il disait que c'était une kiki. Et voilà. Donc,
ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment?
Dénominer, si vous voulez, un certain nombre de droits, de lois qui portaient vraiment les significations du terroir national.
Et il y en a qui disent beaucoup de choses sur, disons, les commanditaires de son assassinat. Des fois, on parle des Français ou on parle de feu au feu de Boigny. Mais il y en a qui disent que c'est plutôt la bourgeoisie burkinabé à qui il avait retiré son pouvoir pour le donner au peuple.
Ben, en fait, vous dites la même chose. Hein. Il y avait une connexion internationale contre l'homme, hein, parce qu'il dérangeait beaucoup. On l'a vu lorsque le président Mitterrand a effectué sa visite officielle au Burkina. Devant le président français, il a pratiquement été, on va dire, outrecuidant, puisqu'il a eu l'audace qu'aucun chef d'État africain ne pouvait avoir devant un président français pour l'accuser frontalement d'avoir les mains couvertes de sang, pour dénoncer les relations que la France entretenait avec Pretoria, avec le régime raciste de l'apartheid. Bon, il y a aussi le fait qu'il dérangeait les chefs d'État des pays voisins, qui ne dormaient pas très bien, parce que chaque fois qu'il prenait la parole dans les conférences internationales, c'est pour dénoncer, évidemment, certaines pratiques qu'il jugeait plus orthodoxes dans la conduite des affaires publiques de ses dirigeants. Évidemment, il était devenu un homme dérangeant, à la fois pour ses chefs d'État de type particulier, mais aussi pour les intérêts de la communauté internationale, parce qu'il remettait en cause beaucoup de choses dans le précaré français. Mais naturellement, qu'il y a des gens aussi à l'intérieur qui avaient perdu leur paradis et qui faisaient des vœux très intimes pour que son régime ne dure pas très longtemps. Évidemment, donc, il y avait pour le résumer une conjonction de facteurs à la fois internes et externes.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait un côté, disons, inexpérimenté ou la méconnaissance, de ce monde crocodile autour de lui?
Bon, non, je pense qu'il en avait pleinement conscience. Mais il me disait souvent, écoutez, si je vous écoute, je ne ferai rien. On ne parlera jamais du Burkina Faso. Nous allons être toujours inexistants et tout le monde va nous écraser comme d'habitude. Nous n'avons pas les moyens, on n'est pas riches, mais au moins nous devons affirmer notre personnalité, nous devons affirmer notre identité. Et ça, il s'était engagé à le faire partout. Quoi qu'il advienne, et c'est ce qu'il a fait, c'est une option résolue de sa part.
Est-ce qu'il savait qu'il pouvait perdre sa vie à cause...
Ah oui, absolument, il en était pleinement conscient. Quand il était content, il était euphorique. Il appelait son épouse en disant, voilà, Mariam, il appelait la veuve. Et quand on lui disait, mais écoutez, comment tu peux appeler ton épouse la veuve? Il répondait, mais vous savez, des gens comme moi ne vivent pas longtemps. Parce que je passe mon temps à déranger et un jour, évidemment, on me changera tout à fait au propre. Je serai changé et c'est vraiment ce qui lui est arrivé.
Mais son esprit est resté.
Son esprit est resté. Et je crois que dans l'histoire à la fois burkinabé et africaine, chaque année qui passe grandira davantage Thomas Sankara.
Donc, à l'image du Martiniquais Frantz Fanon, on peut dire que Thomas Sankara était plus grand que son pays.
Oui, ça c'est certain. Il a été plus grand que son pays. Et d'ailleurs, c'était un grand panafricaniste parce qu'il estimait que le découpage territorial tel qu'il se présente ne permettait pas à nos États d'aller vraiment de l'avant. Donc il était, pour lui, le Burkina était un pays ouvert pour tous les Africains. Et il souhaitait qu'à l'unisson, nous puissions mener le même combat pour affirmer notre indépendance et notre identité nationale.
Mmh. Est-ce que la révolution récente, la chute de Blaise Sentombeur, et puis, disons, cet esprit qui est resté dans l'imaginaire populaire et qui a joué, et aussi ce coup d'État avorté, parce que je pense que cet esprit est resté dans une grande partie de l'armée loyaliste, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est cet esprit qui, 28 ans après, revient au galop?
Oui, en partie, mais il ne faudrait pas exagérer cette dimension. Hein. Il est certain que dans la fraction jeune de la population, il y a une fraction importante qui s'identifie à l'idéal de Thomas Sankara, mais au sein de l'armée aussi, il y en a un peu, mais enfin, il ne faudrait pas exagérer cela. Je crois que le Burkinabé était fatigué de voir un régime qui lui-même était fatigué et qui, d'année en année, perdait ses propres repères et baignait dans une inconscience de plus en plus profonde et généralisée, avec des intellectuels qui ne pensaient plus, mais qui ne pensaient